Je suis avec Oksana et Gilles Prou à la 10e édition des Utopiales de Nantes. Bonjour.
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 On est là pour parler des Cathédrales de Brume qui est sorti aux éditions Rivière Blanche. Ma première question, ça va être comment est-ce que vous vous êtes rencontrés et que vous avez décidé d'écrire un livre ensemble?
Nous nous sommes rencontrés il y a quelques années. On a discuté, on est devenus amis d'abord, et on a discuté de tout ce qui nous passionnait, de tout ce qui nous révoltait aussi surtout, de notre parcours, d'un tas de choses. Et on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de points communs, malgré nos parcours différents, divergents. Donc on s'est dit qu'on pouvait faire un projet sur tout ça, sur ce qu'on avait envie d'illustrer, sur ce qu'on avait envie de dire, sur nos idées, tout simplement. Après plusieurs réflexions, on a choisi de faire ce bouquin, Cathédrale de Brume.
Dont le thème est un petit peu qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'un homme qui est confronté à, pas l'immortalité, mais presque l'immortalité, et qui ne peut ni bouger ni mettre fin à ses jours, et qui donc, pour éviter de devenir complètement dément, va essayer, et c'est la possibilité évidemment dans le cadre de la science-fiction, donc dans le cadre de quelque chose qui se passe dans le futur, de pouvoir créer des univers virtuels dans lesquels il s'immisce complètement, et au fil du roman, on se demande, et le lecteur se demande, et quelquefois même les auteurs d'ailleurs, quelle est la part entre le virtuel et le réel, parce que ça s'entrechoque régulièrement. Et l'un des thèmes un petit peu, puisque nous avons, c'est le moins qu'on puisse dire, des parcours très différents, c'est de dire deux personnes complètement différentes, est-ce que nos différences nous enrichissent véritablement? On a essayé de le démontrer à travers ce livre, en confrontant des choses très différentes, bien qu'on ait des centres d'intérêt communs, et pour le reste on soit dans des domaines d'activité presque à l'opposé, et d'avancer peu à peu, de créer en fait une espèce de symbiose entre nos différentes attentes, nos différentes idées, puisqu'on a des centres d'intérêt communs, comme on dit souvent. Oksana a fait des études supérieures en mathématiques, elle se passionne pour l'histoire de l'Égypte, et moi j'ai fait des études supérieures en égyptologie, et je me passionne pour la cosmologie. Donc quelque part, il y a des passerelles et des ponts entre nous, et on a essayé de le rendre à travers ce premier roman, tout en ayant une histoire qui soit très relativement onirique, et qui soit une espèce d'odyssée intérieure.
Ce début d'histoire avec le grand vaisseau qui est détruit par des astéroïdes sortis de nulle part, et après ce pauvre homme qui se retrouve justement enfermé tout seul du coup, et effectivement l'immortalité, puisqu'il y a un produit qui fait qu'il se régénère, etc. Pourquoi vous voulez le torturer comme ça, le pauvre monsieur? Il est tout seul, déjà c'est dur, et en plus il peut même pas bouger, même pas se déplacer dans son vaisseau.
On ne le torture pas tout à fait, dans le sens où dans ce qui va lui arriver, il va lui arriver des choses relativement pénibles, mais qu'il va induire en lui-même. Enfin, l'objectif, c'est de dire un peu chaque être humain a en lui son enfer et son paradis. Et c'est dans le sens précis du terme, d'ailleurs, dans un des chapitres beaucoup plus loin. Mais il essaye d'extraire en fait tout ce qu'il a de lui-même, parce qu'on part du principe qu'un être humain vit 80-90 ans, il n'a pas le temps d'explorer toutes ses potentialités. Quand on est confronté à une éternité de 3 millions d'années, on a le temps, si j'ose dire, de le faire. Et d'autre part, et ça a été une participation importante d'Oksana liée à sa personnalité et à son activité professionnelle, on a apporté de la sensualité puisqu'il se crée des liens avec un certain nombre de personnages, dont une sentinelle électronique.
On n'a pas voulu censurer le côté érotique qui est souvent censuré dans une œuvre ambitieuse, mais on a su le mettre sans vulgarité, sans que ça soit pornographique, même si mon milieu avant et maintenant, je continue toujours le X. Mais dans ce projet-là, on a réussi à apporter la sensibilité érotique aussi. Ce qu'on a voulu aussi montrer, c'est qu'un petit détail, ça peut bouleverser toute une vie, parce qu'au final, c'est des petits détails qui changent tout. Et donc, notre héros, un peu, est confronté à aérer pendant des millions d'années. Et on observe aussi en tant que lecteur comment il se débrouille, comment il s'en sort avec tout ce qu'il a à l'intérieur de lui, ce qui n'est pas facile.
Et on peut rajouter que, aussi faramineux entre guillemets soit-il au niveau du processus, un certain nombre des éléments qui sont mis en évidence et qui apparaissent surtout dans la deuxième partie du roman correspondent à des théories cosmologiques qui sont tout à fait contemporaines, tout à fait vraies. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que l'astrophysicien Jean-Pierre Luminet a accepté donc de faire cette préface, parce que ça corroborait tout à fait un certain nombre de ses recherches, un certain nombre de recherches d'astrophysiciens et de physiciens des particules. Donc c'est à la fois technique et scientifique, dans le sens où ça s'appuie sur un certain nombre de théories qui sont crédibles, en tout cas qui sont validées par le monde scientifique, tout en étant complètement onirique.
Vous le classeriez art science ou pas du coup?
Alors en fait, nous ne le classons nulle part, parce qu'on nous pose souvent la question, et nous sommes entre guillemets presque vierges dans le domaine de la science-fiction, dans le sens où on n'a pas lu énormément, et on ne veut pas s'inscrire dans un mouvement particulier.
Si on va le classer, on laissera le soin de le faire aux professionnels, aux lecteurs. On n'a pas cherché à classer dans quelque chose, on a vraiment essayé de faire les choses qu'on aimait, sans avoir vraiment de référence, sur un, sans prendre de modèle, sans prendre... On a voulu faire quelque chose déjà d'atypique. On n'a pas voulu faire quelque chose qui se faisait déjà, de mélanger un peu les idées, les univers. C'est vraiment ça, c'est un peu une mise en abîme de plusieurs de l'univers aussi. C'est ce qui illustre aussi notre idée de, du monde, que le monde n'est pas, qu'on n'est pas le centre du monde, qu'il y a d'autres choses autour de nous, et que ce qu'on perçoit, c'est 10% des choses. Enfin, 10% encore, c'est généreux peut-être.
C'est probablement moins, et c'est d'ailleurs un petit peu en reflet d'une des théories qu'on utilise dans le roman, qui est donc la théorie des cordes, qui est une des théories de la physique des particules et de la gravitation quantique les plus en vogue actuellement, qui dit qu'entre autres, l'espace est texturé avec 11 dimensions, une dimension temporelle et 10 dimensions physiques, les 3 qu'on connaît et 7 autres qui sont invisibles. Ça revient un peu à la même chose, c'est-à-dire que la complicité de l'univers est beaucoup plus large que celle que l'on imagine. Et notre credo est de dire la complexité de l'esprit humain aussi. Donc on confronte là pendant dans tout le roman une complexité humaine qui a là tout le temps de se déplacer et de s'enrichir en fait, et la complexité de l'espace. Jusqu'au final, qui peut déboucher ensuite sur une suite si nos lecteurs nous suivent, bien sûr.
Un homme et une sentinelle féminine, c'était obligatoire dans ce sens-là, où il y aurait pu y avoir une femme avec sentinelle masculin, ou deux hommes ou deux femmes?
Pourquoi une sentinelle électronique? C'est parce que tout simplement, on ne peut pas aimer une machine, on ne peut pas aimer un être qui n'est pas comme nous. Et là, on a voulu justement montrer que y avait l'amour qui se créait entre ces deux êtres, que malgré la perfection qui est donnée à Emigraphis, la sentinelle, il y a aussi un libre arbitre qui est mis en œuvre. Il y a un amour platonique qui se crée au fil du temps. Du temps qui est limité parce que la sentinelle doit mourir au bout d'un certain temps. Donc voilà, on a voulu aussi être surprenant là-dessus.
Tout à fait, tout comme il y a une autre dans les intrigues, parce qu'il y a quand même des intrigues amoureuses. Bon roman sans intrigue amoureuse ne serait pas un roman. Il y a aussi une relation qui peut paraître tout à fait étonnante entre une femme et un crocodile géant. Et tout ça, c'est toujours fait d'une façon très allusive. Ça n'est jamais, c'est toujours transgressif, mais transgressif d'une façon qu'on pourrait qualifier de fertile, de féconde. Un peu comme quand on imagine quelque chose ou quand on apporte une nouveauté, on est transgressif par rapport au schéma ancien, on est souvent vu un petit peu de travers, même si ensuite ça s'avère être la réalité. Et on peut compléter aussi en disant que ce projet, on l'a conçu aussi en partenariat avec un groupe de Dark Ambient, un groupe du Nord, qui s'appelle Dawn and Dusk and Twitner. On a proposé donc au leader du groupe, David Sabre, l'intrigue, puisqu'on en a fait un scénario aussi, donc on lui a fait lire le scénario, et ça lui a beaucoup plu, et il a conçu donc la totalité de son album, en faisant en fait une bande originale fictive d'un film qui pourrait éventuellement être tiré par la suite du roman.
Musique qu'on peut entendre d'ailleurs sur la page MySpace qui est dédiée au roman actuellement, et on peut acheter le roman plus le CD actuellement chez Rivière Blanche. Musique auquel vous êtes particulièrement sensible, d'après ce que j'ai lu?
Oui, exact.
Oui, c'est tout à fait exact. Tu en étais plutôt, toi, ACDC, plutôt dark metal et dark ambiante, mais c'est une musique à laquelle on est en résonance,
elle,
en tout cas.
Elle correspond tout à fait à l'univers qu'on a voulu créer, donc elle s'écoute facilement, on peut l'écouter avec le bouquin. Et chaque titre correspond à un passage du roman, donc c'est ça aussi qui est intéressant. David Sabre a illustré à chaque fois le...
C'est un peu comme un storyboard musical.
C'est assez amusant en plus d'avoir plusieurs approches sur ce thème. Je trouve que plus on le fait vivre avec d'autres personnes, plus pour nous c'est magique, quoi. C'est ce qu'on veut faire, c'est que le projet n'ait pas de frontières, qu'il s'ouvre au monde plutôt que justement se renfermer dans une classification, de dire c'est de la fiction un tel ou autre chose. Parce que nous on n'a pas spécialement de référence et on veut justement que le projet soit très ouvert.
À la limite, on l'a plus conçu comme un conte que comme un roman. Donc plus on peut y apporter d'éléments extérieurs qui viennent compléter l'atmosphère générale et l'univers, plus ça vaut.
Un peu à l'image de ce qu'on a écrit d'ailleurs, parce que les univers un peu sont encastrés dans les autres univers et tout, c'est tout un labyrinthe et on voudrait que ce soit pareil, c'est un fantasme peut-être, mais que ce soit pareil au niveau de la création, des gens qu'on fait intervenir. Sur le blog d'ailleurs, il y a aussi quelqu'un qui va intervenir, ça fait partie des surprises qu'on a petit à petit et ça nous plaît bien cette tournure.
Oui, sur notre blog, effectivement, il y a à l'occasion des Utopiales une personne qui nous a contacté, un auteur, et qui souhaiterait participer aussi et mettre des articles en complément, etc. Donc tout ça, ça constitue une espèce de, d'arborescence autour du thème et qui nous convient bien parce que ça correspond un peu à l'état d'esprit dans lequel on faisait, qui n'était pas quelque chose de fermé, qui se commence à la page 1 et qui s'arrête à la page 492, mais quelque chose qui est capable de vivre par soi-même, en fait.
Le travail qui est proposé ou l'activité qui est proposée au départ du roman pour passer le temps et éviter de devenir fou pour le personnage principal, c'est de créer donc des cathédrales de brume, c'est-à-dire des constructions virtuelles à partir de son esprit. Pourquoi vous lui avez fait construire des bâtiments et puis après il construit éventuellement des planètes ou des choses comme ça? Ça permet d'être plus structuré dans son esprit.
C'était pour se tester en fait. Hein. C'était une expérimentation, c'était une possibilité qui lui était offerte mais qu'il n'avait jamais eu jusqu'à présent dans sa vie normale avant d'être un naufragé de l'espace. Il a commencé donc par des choses relativement simples, un peu comme un enfant va lui donner d'abord des cubes, etc.
Et
puis peu à peu, voilà, et c'est ça, il commence par construire ses petites maisons et puis après ça va beaucoup plus loin et qu'on peut constituer ensuite des cathédrales de brume qui sont donc des personnages vivants et d'autre part des univers entiers, des planètes.
Il construit selon ses souvenirs, voilà. selon l'art qu'il connaît, selon tout ça. Il a des références personnelles et après ces références personnelles prennent la vie. Voilà, ça se construit petit à petit et la sentinelle l'aide beaucoup dans cette construction.
C'est aussi un des éléments effectivement qui est important, c'est qu'indépendamment d'une relation à la fois sensuelle et platonique entre le naufragé et la sentinelle participe aussi à l'élaboration de ces cathédrales de brume, puisque par définition elle est une sentinelle électronique, elle est bardée d'informations, donc elle a une encyclopédie entière dans la tête, ce que n'a pas l'être humain, et ça permet donc d'avoir une réelle connivence entre les deux personnages, à la fois une connivence humaine, même si ça peut paraître paradoxal pour une machine, et puis une connivence aussi au niveau simplement de la création. Là encore, il y a beaucoup plus d'idées dans deux têtes que dans une. Et c'est un petit peu le reflet du travail que l'on fait ensemble, deux personnes très différentes, parce que là aussi, entre un être humain et une créature électronique, a priori, il y a quand même a priori une petite différence. Comme on dit souvent, dans ces cas-là, 1 plus 1 fait toujours beaucoup plus que 2. C'est ce qu'on essaie d'un peu de démontrer.
Une sentinelle qui est un petit peu timide au départ, ou en tout cas qui a du mal à lâcher les informations, puisque faut poser des questions un petit peu plus, et en fait elle a plein d'informations. Je pense surtout au passage où quand ils sont en train de commencer à construire leur planète, où il y a la première intrusion dans leur création, en fait elle sait qu'il y a eu des émissions de plasma assez lointaines. Elle a l'information a priori depuis longtemps, mais il aurait pas demandé, elle lui aurait pas donné. Elle est un peu
Elle est dans son rôle, c'est-à-dire qu'elle est là pour aider le naufragé, elle n'est pas là forcément pour le bombarder d'informations qui risquent de l'entraîner vers des délires psychiques. Donc elle est là pour préserver.
Le préserver.
Voilà. Donc c'est pour cette raison. Donc il y a des choses qu'elle dit et des choses qu'elle ne dit pas.
Elle le ménage.
En un premier temps, c'est vraiment une machine, elle est vraiment programmée. Et au fur et à mesure, ça deviendra autre chose qu'une machine. Et là, on n'en dit pas plus. Vous n'avez pas tout lu.
Il faut lire un peu.
On ne va pas déflorer la fin.
Je disais au tout début, avant de commencer l'interview, extrêmement épais comme roman.
Ça se lit tout seul, donc pas de souci là-dessus.
Vous partez sur une trilogie?
Ça pourrait devenir une trilogie. On préfère d'ailleurs utiliser le terme triptyque, un peu un terme en peinture, parce qu'une trilogie, c'est souvent une première partie, puis une partie qui suit, une partie qui suit, ce qui paraît assez logique. Alors que quand on regarde un triptyque en tableau, on parle de la même chose, mais à chaque fois, on l'appréhende de façon différente. Et nous n'aimons pas écrire deux fois de suite la même chose. Quand le second roman, Catharsis, sortira donc en avril, vous verrez qu'il est complètement différent, parce que c'est plutôt un thriller écologique. Donc là, si les lecteurs nous suivent et s'il y a une suite à Cathédrale de Brume, les deux autres romans seront toujours dans les mêmes circonstances avec les mêmes personnages, mais à chaque fois, l'approche, l'angle de vision sera complètement différent. Pour l'instant, on n'a que des idées, aucune ligne n'est encore écrite.
Hein.
Encore un peu de temps.
Au niveau des recherches, ça vous a pris beaucoup de temps sur les théories, etc. Ou est-ce que vous aviez déjà, vous, de par vos parcours, tout ça en tête
et, c'est quelque chose qui nous passionne déjà depuis longtemps. Hein.
Mais il y a des choses qu'on connaissait, et puis en discutant avec des gens comme Jean-Pierre Luminet, on peut qu'avoir des pistes supplémentaires et se cultiver encore plus sur le sujet. Donc voilà, oui. C'est ça aussi notre projet, ça se construit aussi petit à petit.
Oui, ça c'était un point important parce qu'effectivement quand on a rencontré Jean-Pierre Luminet, on avait déjà beaucoup avancé et en discutant avec lui, il nous a apporté d'autres pistes. Même chose pour le second livre donc, qui sera préfacé par l'écologiste Yves Pacalet, il nous a donné un certain nombre d'éléments que l'on a réutilisés ensuite dans la finition du roman. c'est l'avantage effectivement d'être entouré de gens qui sont vraiment des spécialistes et des sommités dans leur domaine, c'est que, indépendamment de ce que l'on connaît déjà, de ce qui nous intéresse, on peut y rajouter un certain nombre d'éléments.
Le fait de chercher notre éditeur, en fait, on a rencontré plein de gens qui nous ont conseillé, ce qui nous a permis d'alléger certains passages, de rajouter des détails sur d'autres, de pouvoir aussi, nous, finir un peu notre projet.
Pour Cathédrale de Brume, le manuscrit initial avait encore quasiment 30 000 mots de plus. Il y a 3 chapitres en plus. Par contre, pour le second, Catharsis, entre le premier jet et la dernière version, celle qui va être publiée, ça a été fondamentalement différent. On l'a revu complètement. Le point de départ était bien sûr le même, et le final était le même, mais tout le reste a été retravaillé d'une façon complètement différente. Et c'est ça qui est intéressant dans la création et dans le fait d'écrire, hein, c'est que c'est jamais figé. C'est jamais quelque chose d'automatique, c'est jamais quelque chose qui a une fin. D'ailleurs, même quand on le finit, quand on le donne à l'éditeur, on se dit, tiens, on aurait dû encore ajouter quelque chose. Mais bon, une fois qu'il est imprimé, c'est trop tard.
Les mondes meilleurs, le thème de la 10e édition des Utopiales, ça vous parle particulièrement? Vous êtes touché par ça?
Oui, oui, si ce n'est que lorsque vous aurez lu notre deuxième roman, vous verrez qu'on n'y croit pas totalement. Mais on aimerait bien, en tout cas.
Quelque chose que vous voudriez ajouter?
Merci de nous avoir écoutés. Et puis, voilà.
On espère qu'il y aura quand même un certain nombre de lecteurs qui apprécieront notre roman. Et comme on a des blogs et qu'il y a aussi le forum de notre éditeur,
interagir là-dessus, quoi,
dire ce qu'ils en pensent, voilà. Que ce soit pour dire du bien ou pour dire du mal, c'est pas grave.
C'est personnel, c'est toujours, ça fait toujours plaisir d'avoir des réactions, tout simplement.
Tout à fait.
Vous pouvez rappeler vos blogs respectifs?
Alors, nous avons en fait, Oksana, tu as ton blog sexy, mais qu'on va peut-être pas citer ici, puisque c'est dans le domaine,
autre
que la littérature. Donc autrement, on a un blog qui s'appelle www.oksanaegile.skyrock.com. Et d'autre part, on a un profil et une page sur Facebook. Il suffit sur Facebook de taper Oksana.
Les moteurs de recherche trouvent bien
trouve facilement. Mais le blog, finalement, c'est www.oksanaegile.skyrock.com.
Est-ce que vous ferez des séances de dédicaces prochainement? Il y a des dates qui sont déjà arrêtées?
Sur Paris, normalement, mais ça a confirmé au niveau de la date.
Il y a déjà des festivals comme le Festival de Sèvres ou le Festival Zone Franche à Bagneux, où là, il y aura donc rencontre avec le public et dédicaces, parce que ce sont des festivals qui sont vraiment organisés uniquement autour de la littérature, contrairement aux Utopiales qui concernent beaucoup d'autres choses. Et on a déjà une séance de dédicaces qui est prévue normalement en février à Paris, dans une grande librairie. Il y en aura peut-être d'autres.
D'accord.
Merci. Voilà.
Merci.
Merci.